Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais prêcher sur un sujet que vous imaginez, c'est sur Pâques. Mais le thème de ce message, c'est l'agneau et l'époux. L'agneau et l'époux. Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire l'époux? Eh bien, on va voir que tout est lié. On peut lire dans Luc 22, Luc chapitre 22. Au verset 7, Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez rentrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le. Dans la maison, il rentrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. L'heure venue, il se mit à table, et ses apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce, et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et l'ordonna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est déterminé, mais malheur à qui cet homme-là par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui qui allait le livrer. Et je m'arrête là. Voilà le repas de Pessah, de Pâques, le dernier repas de Jésus. Alors, je ne vais pas faire de la théologie. Je voulais savoir si vous savez tous ce que c'est que la Pâque juive. Donc, ouais, mais ça, je sais que. Je sais que tu sais, mais est-ce que tout le monde sait d'où vient la Pâque? Non? Oui? Vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. Alors on va quand même pour ceux qui seraient timides et qui n'auraient pas osé dire non, on va regarder dans Exode 12. La Pâque est instituée dans Exode 12. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël est esclave en Égypte, dans une dure servitude. Ils n'avaient aucune liberté. Ils étaient confinés. Ils devaient travailler. Et ils avaient le droit que d'aller travailler. Moïse est appelé comme libérateur. Et bon, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, il y a eu des plaies, donc le Nil changé en sang, les sauterelles, la grêle, les grenouilles, enfin j'en passe. Et la dernière plaie, c'est la plus terrible, c'est la mort des premiers-nés mâles, que ce soit des hommes, des animaux, toute bestiole en Égypte, premier-né mâle est décimée. Et voilà ce que dit Dieu à Moïse, au chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, « Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on partagera avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Si vous voulez prendre un agneau, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Entre les deux soirs, ça veut dire entre le coucher du soleil et la nuit noire où il y a les étoiles qui apparaissent. Il y a tout un laps de temps, le soleil se couche, vous savez, quand le soleil se couche, ce n'est pas tout de suite jour-nuit, c'est le soleil est couché et vous avez un laps de temps entre l'apparition des étoiles et le coucher du soleil, et c'est là qu'il faut immoler l'agneau. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, une sandale aux pieds et votre bâton à la main. Ça me rappelle une prédication où je vous ai dit « Tenir votre lampe allumée et vos reins sains. » Une ceinture à vos reins, là, il faut être aussi prêt à partir. Et vous la mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ce sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas pour vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que je vous aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays, un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé dans tous les lieux où vous habiterez dans le monde. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. J'attire l'attention sur l'hysope, on en reparlera. Et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux portes avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Je vais m'arrêter là. Donc vous avez compris que pour échapper au châtiment, à la plaie que Dieu avait envoyée sur l'Égypte, il fallait mettre du sang sur le linteau de sa porte, du sang d'un agneau sans défaut, mais d'un agneau sanctifié. Alors que veut dire sanctifié ? Dans notre langage, on pense que c'est une valeur morale, c'est-à-dire de dire que voilà, on progresse au niveau moralité et on devient sans péché, quoi. Sanctifier en hébreu, ça ne veut pas spécialement dire ça. Ça veut dire ça, mais pas que ça. L'agneau, comme vous le voyez au début du texte, Au dixième jour, il est pris du troupeau et il est mis à part jusqu'au quatorzième jour pour être sacrifié. Pendant 3 jours, l'agneau est mis à part. Il est sanctifié. Ça veut dire ça, sanctifié. Ça veut dire être mis à part. C'est la première signification de la sanctification, c'est être mis à part. Alors, Pessah, en hébreu, c'est Pâques. Les Pâques au pluriel pour les fêtes chrétiennes. Pessah au singulier pour la fête juive. C'est, veut dire, tout simplement, ça vient du verbe lipsoar en hébreu, qui veut dire passer outre, passer au-dessus. D'ailleurs, en anglais, on dit passover. Passer au-dessus, ou alors sauter. C'est pareil, hein, quand vous jouez à saute-mouton, vous passez au-dessus de la personne. C'est vraiment cette image de passer au-dessus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Pessah, pour la Pâque rabbinique, avait lieu samedi dernier. Premier jour, c'était samedi soir. Et dernier jour, c'est aujourd'hui, ce soir. Pour les chrétiens, c'est ce matin, où Jésus est ressuscité. Et pour Pessah messianique, ah, vous savez que vous ne connaissez pas celle-là, c'est mardi prochain. Mardi soir prochain, le Seder, pendant une semaine, la fête des fins sans levain. Ah, il y a un décalage. Hein. Comme quoi, il y a plusieurs judaïsmes. Mais ça, bon, ce sera un autre sujet. Alors, on va revenir à Luc 22. Qu'a fait Jésus ? Parce qu'on lit, on lit, on lit comme ça, mais il y a des signes que l'on ne comprend pas, nous, occidentaux du 20e siècle, du 21e siècle, pardon. Je n'ai pas encore changé de... Jésus donne un signe à ses disciples, parce qu'on demande, mais où est-ce qu'on va préparer la Pâque ? Dans quel lieu tu veux qu'on fasse ça ? Et Jésus donne un signe dans Luc 22, que tout le monde lit allègrement, moi y compris, jusqu'à présent. Vous rencontrerez un homme portant une jarre ou une cruche. Vous en avez vu beaucoup des hommes porter des cruches ? Déjà en Afrique, déjà, est-ce que vous en voyez beaucoup ? Ou au Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, est-ce qu'on en voit beaucoup ? Non, parce que c'était quelque chose qui était spécialement réservé à la femme. C'était trop fatigant pour les hommes, donc c'était spécialement réservé à la femme d'aller chercher de l'eau. D'ailleurs, on voit dans les évangiles, hein, samaritaine, qui c'est qui va toujours se coller au puits, que ce soit Rebecca, samaritaine, Sephora, c'est toujours une histoire de femme. On trouvera rarement des hommes autour du puits. Hein. Les hommes, ils sont plutôt là, palabrés, à l'entrée de la porte, plutôt qu'aller chercher de l'eau. Et là, Jésus dit, vous trouverez un homme portant de l'eau. Waouh ! Autant chercher une aiguille dans une meule de foin à Jérusalem. Parce que ça, c'est rare. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, tout simplement, que l'homme n'avait pas de femme pour aller chercher de l'eau. Soyons simples, il n'avait pas de femme. Et pourquoi il n'avait pas de femme ? Parce qu'il était célibataire. Et pourquoi il était célibataire ? Parce qu'il était essénien. Essénien, c'est une secte juive qui était très proche des idées de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et même très proche des idées de Jésus, qui prescrivait de ne pas se marier, entre autres. Et il y avait tout un quartier du côté du mont Sion, au sud de Jérusalem, qui s'appelait le quartier essénien. Et Jésus a dit à Pierre d'aller voir dans ce coin-là. Et là, ils ont trouvé, donc il y a eu la chambre haute. Et s'il y a bien un lieu à Jérusalem où on est quasiment sûr qu'il est authentique, c'est la chambre haute. parce qu'on sait qu'il est dans le quartier essénien. Il a été un peu épargné par toutes les destructions parce qu'il était dans un quartier sud complètement loin du temple. Parce que, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus a fait la Pâque avant la Pâque ? C'est une question que je pose. Jésus a fait le céder avant la Pâque. Puisque quand il a été crucifié, il a fallu faire vite, 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 parce que c'était la Pâque. Donc il a fait le céder quasiment une journée avant. Parce que les Esséniens n'avaient pas le même calendrier que le Second Temple, enfin le calendrier pharisien. Ils étaient sur un calendrier solaire alors que les rabbiniques étaient sur un calendrier lunaire. Et c'est pour ça que quand je vous ai dit que la Pâque messianique est que mardi prochain, c'est parce qu'il y a ce décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Il y aura des choses, plein de choses à dire, mais je n'irai pas plus loin. Le pain sans levain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez vu la prescription dans Exode 12 que celui qui mangera du pain levé sera retranché du peuple. C'est grave. Celui qui mange du pain levé sera retranché d'Israël. C'est une abomination, quoi. Quasiment pendant cette fête-là, il faut absolument ne voir aucun levain. Il faut savoir que les Juifs actuellement, vous allez dans une maison de quelqu'un qui est juif pratiquant, elle est clean. Ils ont retourné tous les meubles, toute la cuisine, pour chercher le moindre miette de pain, pour virer tout ce qui était levain. Et ils ont passé l'aspirateur partout, ils ont nettoyé le frigo, ils ont nettoyé le congélateur, ils ont désinfecté le congélateur pour ne pas avoir un morceau, ne serait-ce qu'un simple morceau de levain dans la maison. Ça, c'est aussi le rôle de la femme. Le rôle de l'homme, c'est de vérifier que la femme a bien fait les choses. Et donc, pendant 7 jours, il n'y a pas un bout de levain dans la maison. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est du folklore rabbinique. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Pourquoi Dieu veut absolument qu'il n'y ait pas de levain ? Eh bien, on va le lire dans 1 Corinthiens 5, au verset 6. C'est les censures des désordres dans l'église de Corinthe. Donc c'est adressé aux païens. Un Corinthiens 5, au verset 6. « Il n'est pas beau votre sujet de gloire. » Ça commence bien. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité, de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre, enfin je m'arrête là, donc après il parle des débauchés dans sa lettre. Célébrons donc la fête, donc il parle bien de la fête de Pessah, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie, mais de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Le levain, c'est le symbole du péché. Le levain fait lever toute la pâte. Quelqu'un qui est dans le péché peut entraîner plein de personnes dans le péché. C'est ce qu'il disait là au niveau de l'église de Corinthe. Le levain, c'est le péché. Nous sommes le pain sans levain. Nous devons avoir une vie sans levain. C'est ça, la signification de Pâques, c'est ça. On doit avoir une vie sans levain, dans l'absolu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Soyez des pains sans levain. Que veut dire la sortie d'Égypte aussi ? Parce qu'on a dit que là, il y a eu la plaie. Ils sont sortis d'Égypte. La fête de Pâques, c'est la fête de la libération. Vous êtes esclave, vous êtes esclave du péché, vous êtes sous la servitude du péché, vous êtes sous la servitude du pharaon, qui est l'image des forces mauvaises, je ne vais pas dire du diable, mais des forces mauvaises, de tout ce qui s'oppose à nous et qui nous entraîne dans le péché. Mitzrayim, en hébreu, c'est le pays d'Égypte. Mitzrayim, c'est traduit par Égypte, mais le vrai terme de Mitzrayim, ça veut dire le pays de l'enfermement et de nos limitations. Nous sommes enfermés, nous sommes limités en Mitzrayim. Je rajouterai un mot maintenant qui est à la mode, le pays du confinement. On est confiné en Égypte. La seule chose qu'on avait le droit de faire en Égypte, c'est de travailler. Et travailler plus pour gagner moins. C'est ce qu'a dit Pharaon. Hein. Vous ferez autant de briques, mais vous irez chercher la paille. Mais vous n'aurez pas un seul instant pour aller adorer votre Dieu dans le désert. Vous n'aurez pas un seul instant à consacrer à votre Dieu. Parce que je suis Pharaon et ce que je veux, c'est vous asservir. Toute relation avec le monde actuel serait tout à fait fortuite. On parle d'une vieille histoire d'il y a 3000 ans, 4000 ans. C'est une histoire actuelle qui concerne le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Laisse aller mon peuple. Comment faire pour sortir de ce pays ? Nous, on n'a pas grand-chose à faire, c'est juste de mettre du sang sur les linteaux de nos portes et être prêt à avoir la ceinture autour des reins, le bâton et son manteau prêt à partir. Et chaussures, bien sûr. Pâques, Pessah, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est le passage de la mort à la vie. Je ne vais pas le lire. Et on va lire dans l'évangile de Jean. Vous connaissez l'évangile de Jean ? Pour ceux qui lisent régulièrement les évangiles, vous noterez que l'évangile de Jean dénote des trois autres. Et dénote énormément des trois autres. Alors l'évangile de Jean, il est centré sur une seule chose, sur la signification spirituelle de la fête de Pessah. Ah bon ? Moi je ne l'avais jamais lu comme ça. Il est centré là-dessus. Il y a mention de trois Pâques dans l'évangile de Jean. Tiens, c'est les trois jours de sanctification de l'agneau, les trois ans du ministère de Jésus. La première Pâque, c'est au début, quasiment après le baptême. Donc, baptême dans le Jourdain, hein, c'est dans Jean 2, dans Jean 1, où Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est quoi ? C'est bien l'agneau pascal. C'est celui qui devait venir, qui est plus fort, plus grand que moi, qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Je vais retourner dans l'évangile de Jean. On lui demande s'il est le Messie, s'il est Élie, il dit non. Et au verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit son témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Au verset 36, il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples l'entendirent et le suivirent. L'importance que Jean, il n'a pas dit que Jésus était le Messie. Il a dit qu'il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, donc c'est une importance capitale pour lui que c'est lui qui devait être sacrifié pour la Pâque. Est-ce que c'est, vous vous souvenez du titre de mon message, l'agneau de Dieu, l'agneau et l'époux. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que l'évangile de Jean commence par les noces de Cana? Le premier miracle de Jésus, c'est les noces de Cana. C'est un mariage où Jésus change l'eau en vin. On verra la signification du vin. Et tout de suite après les noces de Cana, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établi dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvint qu'il est dit, qu'il est écrit, le zèle de ta maison me défore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire à la Pâque, ses disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Sa première fête de Pâques, c'est ça. Il se fait remarquer puisqu'il chasse déjà une première fois tous les vendeurs du temple. Il leur fera une seconde fois dans les autres évangiles, à la dernière fête de Pâques. Alors on va revenir à la fête de Pâques telle qu'elle est fêtée actuellement. Il y a un passage qui est lu dans la fête de Pâques, pendant le Seder, dans la Haggadah de Pessah. C'est le Cantique des Cantiques. Le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. On va dire, mais pourquoi ce passage? On parle de la délivrance du peuple hébreu d'Égypte. Pourquoi lire le passage du Cantique des Cantiques? Des fois, on se pose la question. Et on lit, c'est surtout lu, c'est le chapitre 2. Au verset 4. Il m'a introduite, c'est une femme hein, donc qui parle, il m'a introduite dans la maison du vin. Tiens, on entend encore le vin. Et sa bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa main droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Voici, c'est la voix de mon bien-aimé. Voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Au fond des biches, le voici, il se tient derrière notre mur, il observe par la fenêtre. son œil brille au treillis. Je vais la faire en hébreu. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Les deux verbes, sauter. Je vous ai dit que Pessar, ça voulait dire aussi sauter. Alors, ce passage aurait pu rester obscur, sauf qu'on a trouvé à Qumran un commentaire qui était déjà connu des rabbins, mais comme on se méfie un peu des rabbins, on disait, est-ce que ça existait à l'époque de Jésus? Mais à Qumran, on sait que c'était l'époque de Jésus. Ce commentaire existait déjà. Le Messie, pour les Juifs, est comparé à une gazelle. Il saute, il bondit. On croit le voir, il disparaît. Il saute de montagne en montagne, de colline en colline et de vallée en vallée. Et les montagnes, les collines, pareil dans les commentaires, ce sont les prophéties, ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes, bah, les prophètes, généralement, c'est sur la montagne que ça se passe. Moïse, il y avait une montagne. Élie, le Mont Carmel, c'était une montagne. Donc il y avait un lien entre la montagne et les prophètes. Et le Messie saute de prophétie en prophétie. Et tout d'un coup, on croit qu'il est là, mais il n'est pas là. Il a disparu. Comme telle une gazelle. Mais mon bien-aimé, Kol Dodi, la voix de mon bien-aimé, c'est l'attente messianique du peuple d'Israël. Je suis l'épouse, j'attends mon bien-aimé, j'attends l'époux. Et c'est pour ça qu'à Pâques, on a une attente messianique. C'est-à-dire la fête de Pâques, ce n'est pas seulement la libération du pays d'Égypte, mais c'est aussi en attente de la libération messianique du peuple d'Israël. Et quand vous faites un seder avec les Juifs, il y a quelque chose qui est parlant pour les chrétiens, mais pas du tout pour les Juifs, mais nous, on arrive à faire le lien. Il y a trois pains sans levain, qui sont trois matzot, trois pains sans levain. Le premier, ça représente Dieu. Le second, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il l'appelle la phicomène, qui veut dire, c'est un seul mot grec, hein, ça veut dire je suis venu. La phicomène, ou alors je viens après le repas. C'est le Messie. Et le troisième, c'est le peuple. C'est le peuple. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au début du repas, on prend celui du milieu, la phicomène, et on le brise. On la brise en deux, de deux morceaux irréguliers. Et on prend un morceau et on le cache dans une serviette immaculée, une serviette blanche, et on le met sous la nappe. Et on le cache pendant toute la durée du repas. Pour nous, chrétiens, on sait briser en deux. Est caché, donc le linceul, c'est le tombeau, la nappe blanche immaculée, c'est le tombeau, et sous la nappe, c'est caché dans le tombeau jusqu'à la fin du repas. Il y a quatre coupes, et Luc le dit bien. La première coupe, Jésus le prend et dit buvez-en tous, car je vous le dis, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je revienne dans le royaume de Dieu. C'est pas la coupe de la Sainte Seine, hein, c'était une coupe. Et à la fin du repas, il est marqué à la fin du repas, normalement, la quatrième coupe, on la verse, et l'enfant le plus jeune va ouvrir la porte et demande à Élie, le prophète, de rentrer, boire cette coupe. Voilà, on ouvre la porte. Si Élie est à la porte, eh ben, ça veut dire que c'est ce soir que le Messie revient, que le Messie arrive, parce que Élie précède le Messie. S'il n'est pas là, alors il faut l'attendre, il faut veiller. Et il y a une veille de Pâques, comme nous, les chrétiens, veillons pour attendre le Père Noël. La messe de minuit et tout ça, on attendait l'arrivée du Père Noël. Ça, c'est des contrefaçons. La veille de Pâques, c'est on ouvre et on attend le Messie. Et s'il n'est pas là, on reste éveillé le plus longtemps possible. Certains même y passent une nuit blanche pour attendre le Messie. Et ça, c'est à mettre en lien avec Gethsémané. Le soir de Pâques, il était interdit de dormir. Et qu'est-ce qu'ils font, les disciples ? Eh bien, ils dorment. Vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Pourtant, c'était ce soir-là que le Messie arrivait. C'était ce soir-là où l'agneau pascal était là. Vous n'avez même pas pu dormir une heure avec moi. Et qu'a fait Jésus ? Contre toute attente, il a pris cette quatrième coupe. Et il a dit, voilà, ceci est la coupe de l'Alliance, de la nouvelle Alliance. Prenez, buvez, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle. Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous le ferez. Quatrième coupe, ce n'était pas pour lui, hein, c'était pour Élie. Il a accompli pleinement le symbole de la Pâque. Et c'est pareil, la phycomène, le truc qui était caché, il l'a pris. Prenez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Alors, je vais m'arrêter. Le céder, le repas de la Pâque juive, est prophétique. Est prophétique puisque c'est le repas des noces de l'agneau. Puisqu'il a dit, la prochaine fois que j'en mangerai, ce sera dans le royaume de Dieu. C'est vraiment le repas des noces de l'agneau. Et je veux en revenir à ce parallèle. Dans tout le Nouveau Testament, vous entendez parler de l'époux. Nous, ça nous parle, bon, on parle d'époux, mais bon, ouais, c'est le mari d'un tel. Pour les juifs, ça ne veut pas dire ça. L'époux, pour les juifs, c'est le Messie. C'est la gazelle, c'est le bien-aimé, c'est l'époux. Vous connaissez toutes les paraboles sur les mariages ? Hein ? Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure l'époux arrive. Ça, c'est la parole des vierges. Le roi qui fait un festin pour le mariage de son fils. Enfin, toutes les paraboles sont orientées. On ne parle que de mariage dans la Bible, finalement. Et pourquoi ? Parce qu'on ne parle du mariage futur, de l'épouse et de l'époux. Alors j'ai une bonne nouvelle pour nous, parce que certaines théologies chrétiennes disent que l'épouse, c'est juste une élite, et que les autres, ils verront le train passer. L'épouse, c'est est-ce que tu as accepté Jésus ? Est-ce que tu as mis le sang de l'agneau de Dieu sur les portes de ton cœur ? Oui, c'est bien. Est-ce que tu as du pain sans levain dans ta vie ? Oui ou non ? Ou tout au moins, si c'est non ou à moitié, tu tends à vouloir être sans levain. Attention, je ne vais pas non plus décourager tout le monde, hein, parce que sinon, il n'y a plus grand monde. Oui, oui. Alors tu es l'épouse. Jésus est mort. Mais mieux encore, il est ressuscité. Je vous avais dit que la dernière phase du salut, c'était la résurrection. Je ne peux pas trop en parler parce qu'on n'y est pas encore. Mais Jésus, lui, déjà, est ressuscité. Il est allé au ciel, il nous a préparé une place. Vous savez que comment se passent les fiançailles à l'époque de Jésus ? C'est le mari, bon, il va voir sa fiancée, il dit voilà. Enfin, il s'est négocié avec les parents aussi pour savoir combien ça coûte. Mais après, il dit, voilà, dans un an, je reviendrai. Il ne se voyait pas, il n'était pas question de se voir. Hein. C'était, ok, je te prends comme épouse. Enfin, on est fiancés pendant un an. Je m'en vais, je vais te préparer une maison. Je vais bâtir une maison, parce qu'à cette époque-là... Et quand la maison sera prête, je viendrai te rechercher. et je t'épouserai. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il dit, voilà, je m'en vais, il est plus avantageux pour vous que je ne m'en aille, je vais vous monter au ciel, je vais vous préparer une place, et quand la place sera prête, je reviendrai vous chercher. Jésus nous compare à une fiancée, à une épouse. Et on est dans cette attente de l'épouse, d'épouse, en disant, voilà, on a été promis en mariage, on n'est pas marié, on a été promis en mariage, on est fiancé. Et qu'est-ce que on attend d'une fiancée? Ben, c'est d'attendre son fiancé et de ne pas être occupé à autre chose. Il y aurait plein de choses à dire sur le fait d'être épouse. Je n'ai pas tout le temps d'en parler. Dieu compare Israël à la sortie d'Égypte comme une épouse, comme son épouse. Dans Osée, chapitre Osée, on peut le lire. Au chapitre 2, verset 14, il est dit quoi? J'interviendrai, je ravagerai ses vignes, en parlant d'Israël, je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les détruirai, je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où on encensait les idoles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers et suivait ses amants. Et moi, un boulier, oracle d'Éternel. Donc c'est Dieu qui se plaint que son épouse est infidèle. C'est pourquoi, et là c'est puissant, c'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, moi, je la conduirai en désert et je parlerai à son cœur. De là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des idoles. On ne se souviendra même plus de leurs noms. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, etc. etc. Et au verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion, je te fiancerai à moi avec fidélité, tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai des cieux et ils exauceront la terre. Vous pouvez le lire, c'est dans Osée, c'est toute une histoire d'amour faite par un prophète où le prophète est obligé d'épouser une femme infidèle et adultère, en l'image de ce qu'avait fait Israël. Dieu, à un moment, a hésité. Il avait épousé Israël à la sortie d'Égypte, épousé ce peuple. Et le peuple, bien sûr, n'a pas été fidèle. Il a même désobéi. Il s'est tourné vers d'autres dieux. Et Dieu a hésité. Et à un moment, il voulait répudier Israël. Mais vous connaissez ce Dieu qui dit « Je hais la répudation ». Et qu'est-ce qui fait ce Dieu? C'est, il dit non. Répudier, c'est la solution la plus simple. Mais ce n'est pas la bonne solution. Je vais la reséduire. Imaginez le texte, ce que ça veut dire. Le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, dit dans sa parole, c'est pourquoi voici qu'en la séduisant, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Parler en son cœur, c'est lui faire la cour. C'est ce que ça veut dire. La vraie traduction, ça veut dire ça. Et je lui ferai la cour dans le désert. Comme au temps de sa jeunesse, comme au temps où elle était joyeuse quand elle est sortie d'Égypte. On peut lire aussi dans Jérémie 2, chapitre 2. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Va, écris aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée. Quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile, Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondé sur eux. Voyez de quel amour Dieu aime Israël. Tu es une jeune fille, de ton amour, je me souviens de ton amour d'une jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais dans le désert. Bien sûr, le désert, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Désert stérile, ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais on était ensemble. Tu me suivais, tu m'étais fidèle. Voilà, alors vous allez me dire, ça concerne Israël. C'est pas pour nous. Mais si, c'est pour nous. Ça ne concerne pas que l'Église. Je vous ai déjà prêché, des deux peuples, il n'en fera qu'un seul. Donc c'est aussi pour nous. Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu veut que nous soyons son épouse. Dieu veut nous faire la cour. Et il a tout payé. Il a tout donné. Il y a un passage qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Alors attention, l'Église, c'est la Keïla. C'est la communauté. L'Église d'Israël, c'est l'Église nous les païens et nous et eux les juifs. Rassemblés. Des deux, il nous a réunis en un seul. Et s'est livré pour elle, afin de la purifier par la parole et la rendre sans tache et irrépréhensible pour le jour de son mariage. C'est pas dit comme ça, mais c'est dit au moment où... Pour le jour de son mariage. L'épouse doit se préparer. Il est dit aussi dans d'autres passages sans ambiguïté que Jean-Baptiste le dit carrément dans Luc, il le dit que lui c'est l'ami de l'époux, mais que voilà, que par contre l'époux est pour l'épouse. Nous sommes ses amis, mais voilà, c'est. Et il est dit aussi un autre passage que tant que l'époux est avec eux, on ne jeûnera pas. Le jour où il sera ôté, là ils jeûneront. Vous savez, quand ils avaient fait le reproche en disant mais pourquoi tes disciples, les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Oui, l'époux est avec eux. Le Messie est là. Eh les gars, le Messie est là. Il est là. Il est sur terre. Le jour où il sera parti pour préparer une place, alors là, oui, on jeûnera. Voilà ce que ça veut dire. Je pense que pour plusieurs, le mariage est un moment de joie, pour ceux qui se sont mariés. C'est un moment de joie, c'est un moment marquant dans notre vie. Je suppose, j'espère. La venue du Messie est un moment d'une extrême joie. La bienheureuse espérance. Quand est-ce qu'il revient, notre époux ? Quand reviendras-tu ? La bienheureuse espérance. Pâques et l'attente de l'ultime délivrance. Et aussi l'attente de l'époux. Veillez et priez, car l'époux revient. Quel est le piège actuellement de l'Église ? Là, je parle de l'Église, puisque j'en fais partie, du 21e siècle. Dans Luc 21, chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de s'arrêter à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quelle épouse sommes-nous? Est-ce que nos cœurs se sont appesantis par les soucis de la vie? J'espère pas l'ivronnerie, mais au moins les soucis de la vie. Attendez-vous l'époux tous les jours? Attendons-nous l'époux tous les jours? Ou on est occupé par les soucis de la vie? Les soucis de la vie, l'autre traduction pourrait dire les distractions du diable pour nous détourner de l'essentiel. Dépouillons-nous et attendons le retour de l'épouse. Je me souviens de ce témoignage de Polymeli, je crois, c'était le frère du Sud-Ouest qui avait été dans une mort clinique suite à, parce qu'il avait été piqué par les frelons asiatiques et qui a vu Jésus, puis que Jésus il a dit « Mon église, qui devait être une épouse, est devenue une prostituée. » Et l'église est accaparée et elle ne se soucie plus de moi. Alors bien sûr, c'est des paroles très dures, mais il a dit « Reviens sur terre et dis-leur que l'époux revient. » Dis-leur que l'époux revient. On n'a pas été sauvés, on n'a pas mis du sang sur nos linteaux de notre cœur pour vivre. À notre guise, on ne peut pas, vous savez, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit couramment. Soit on suit le royaume de Dieu, on ne peut pas à la fois bénéficier du monde et du royaume de Dieu. Car forcément, on aimera l'un plus que l'autre. L'attente du bien-aimé. L'attente du bien-aimé. C'est le message de Pâques. Notre délivrance a été faite. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il est mort pour nous. Il nous a justifiés. Alléluia. Mais mangeons cette semaine des pains sans levain. Soyons des pains sans levain. Parce que nous sommes aussi des pains sans levain. Détournons-nous des choses de ce monde. Les soucis de la vie, la soif de posséder. Ce que disait, c'était une idolâtrie. Je ne voudrais pas que Dieu nous regarde. Et le problème, c'est que on n'a pas été meilleur qu'Israël. Au moins, il y a zéro partout. Match nul. Mais on ne veut pas que Dieu soit en train de se poser la question de son alliance, quoi. Alors voilà ce que je voulais dire ce matin. J'ai pour finir deux choses qui sont dans l'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse est une lettre aux sept églises. Et on va parler de la septième église. Vous connaissez la septième église? C'est celle du temps de la fin, puisque c'est la dernière, on va dire. Bien qu'il n'y a pas de chronologie, hein, je dis ça comme ça, mais... La septième église. Donc Apocalypse 3,14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de la nudité ne paraisse pas. Et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et le vainqueur, je ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je me tiens à la porte et je frappe. Vous vous souvenez qu'au repas de Céder, le plus jeune ouvre la porte pour laisser entrer le Messie. Élie est le Messie. Il n'a même pas besoin de frapper, on ouvre la porte pour qu'il soupe avec nous. Parce que le but, c'est là, c'est parler aussi du repas de Pessah. Le but, c'est qu'il vienne manger avec nous. Et là, Dieu dit, la porte est fermée. L'Église se croit riche. L'Église de Laodicée se croit riche. Pourtant, elle n'est plus ni bouillante, ni froide, elle est tiède. On a mélangé le monde, on a mélangé le royaume de Dieu. Et vous savez ce que ça veut dire sanctifier ? C'est mis à part. On est mis à part. On n'est pas mélangé. On est mis à part. Et si vous mélangez, la porte est fermée. Et pour conclure, Apocalypse 19. Donc il parlait des noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont des paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il dit, ne fais pas ça. Il adore Dieu. Voilà, ça c'est se vêtir de fin lin, éclatant et pur. De fin lin, ce sont les œuvres. Tiens donc, c'est pas la foi ? Bon, ça c'est un autre sujet. Ce sont les œuvres des saints. Et au verset 22... Verset 13. Au verset 17, par contre. 22, 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement, de la vie. L'eau de la vie gratuitement, pardon. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies d'écrit. Non, je m'arrête là. C'est surtout que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Il n'est pas parlé de l'époux là. C'est l'esprit et l'épouse qui sont prêts. Demande à l'époux de dire, viens maintenant, viens, viens, viens. Alors on va prendre le repas du Seigneur maintenant. Et vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Et à chaque fois qu'on prend ce repas, on fait ceci en mémoire de l'époux. Faites ceci en mémoire de moi. Viens. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer parce que tu as tout accompli, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, mais mieux encore, tu es notre époux. Tu es celui que nous voulons attendre. Tu es celui, tu es notre espérance. Tu es le rocher de notre salut. Et nous te disons, viens. Viens, Seigneur, viens. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce sacrifice immense que tu as fait à cette fête de Pessah. Tu t'es livré comme l'agneau de Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, nous soumettre, Seigneur, à toi, Seigneur. Oui, nous voulons vraiment nous sanctifier, Seigneur, nous mettre à part pour toi, Seigneur. Nous mettre à part comme une fiancée se prépare pour ses fiançailles. Se mettre à part et attendre ce jour des noces de l'agneau. Ce jour des noces où tu viendras nous chercher pour nous amener avec toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Bon dimanche.